j'inviterais peut-être des personnes à préparer une question, si jamais, sur la présentation spécifique d'André. Moi, ce qui m'a frappé, dans un certain sens, c'est justement que cette complexité, justement, n'a pas l'air nécessairement maîtrisée. Vous avez parlé d'un paquet de données qu'on a sur l'emploi, sur la concentration, vous avez parlé de GM qui est capable de s'ajuster, tandis que les PME, non. Donc, en quelque sorte, est-ce que, justement, le défi n'est pas de cette intégration à l'économie mondiale, de au-delà de soutenir cette mondialisation ou l'intégration, mais aussi de voir quel est l'impact sur la concentration, sur les inégalités, et après ça, comment on peut, par les politiques publiques, gérer l'insertion dans les réseaux des entreprises multinationales, donc de l'économie canadienne, mais en même temps que ça a des retombées, justement, sur les firmes, les petites comme les grandes, les petites, je pense, ont besoin de plus d'aide, et aussi sur comment on peut avoir, vous avez négocié des accords de libre-échange avec, par exemple, Ressources humaines, hein, et donc comment, justement, à travers ces accords, on peut négocier aussi une dimension sociale qui soit un peu à la hauteur de ces défis dont vous parlez dans vos études qui sont très, très fines. Alors, je vais prendre quelques questions. Vous pouvez peut-être me répondre.
Juste pour rajouter à votre point, moi, j'ai une vision strictement économique. C'est par ma description de table, si vous voulez. Je prends essentiellement une approche strictement là, économique, à l'analyse des accords de libre-échange. Okay? Pour moi, l'objectif de la libéralisation du commerce, des accords de libre-échange, c'est d'augmenter, puis je pense que mon analyse en fait la démonstration, d'augmenter l'efficience de l'économie, amener une meilleure allocation des ressources, amener une plus grande productivité, etc. S'il y a des problèmes, s'il y a des dislocations par la suite, s'il y a des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de certaines entreprises, etc., là, ça devient un problème domestique. Okay? C'est un problème au niveau de l'inégalité des revenus, puis il n'y a rien qui démontre que le commerce international, alors on a fait des études là-dessus, il n'y a rien qui démontre que le commerce international a augmenté l'inégalité des revenus. Okay? C'est essentiellement un problème de nature technologique et sociale avant d'être un problème de nature commerciale. Mais tout ça sont des problèmes qui sont... Et l'inégalité de revenus, essentiellement, c'est un problème de taxation, d'éducation, de réallocation des ressources. C'est pas un problème de politique commerciale. Donc, il faut faire attention, parce que moi, j'en regarde ça, je me dis, la politique commerciale, là, compte tenu de tout ce qui se passe, c'est déjà assez compliqué comme ça. S'il faut commencer à rajouter des dimensions, inégalité de revenus, politique culturelle, politique sociale, très intéressant, mais ça rend ma tâche tout le temps plus complexe. Donc, essentiellement, moi, j'aime me restreindre le plus possible à une approche plutôt économiste.
On divise les tâches, on divise le travail.
C'est ça.
Dans les... Alors, monsieur, après Nathalie et monsieur derrière. Oui, on va prendre 3 ou 4 questions.
Bonjour, mon nom est Sam Tota. Je vais être très franc. Je vais poser la question sur quelque chose qui n'a pas été discuté. Et ce qui n'a pas été discuté, c'est l'impact sur l'individu, c'est-à-dire la richesse, la pauvreté, et tous ces arrangements, tous ces contrats, etc., c'est sur l'individu. Vous avez juste mentionné le bien-être, sans définir qu'est-ce que c'est le bien-être. Quand aux États-Unis, vous avez la différence entre Bill Gates et la pauvreté, des choses. C'est ça l'important. Il faut nous dire si tous ces arrangements sont arrivés à un certain consensus, la pauvreté a diminué de l'individu ou bien non.
Est-ce que c'est un peu une redite de la question?
Oui, mais comme je mentionnais, la politique commerciale vise à augmenter l'efficience de l'économie, avoir une meilleure réallocation des ressources et donc d'augmenter le revenu collectif. Par la suite, c'est au gouvernement, par des politiques de nature plus interne, de s'assurer que cette nouvelle richesse-là est redistribuée de façon à compenser les perdants. Okay? Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement, qu'il peut y avoir des effets négatifs, et c'est important pour les gouvernements d'y faire face et de faire en sorte que les gens sont compensés. Et justement, les gains d'efficience et les gains économiques que les accords de libre-échange nous permettent d'aller chercher nous donnent les moyens de résoudre ces problèmes-là. Donc, je vois ceci comme étant deux problèmes différents.
Si vous voulez, on peut reprendre 3 questions à part et on se retrouve en train de vous répondre.
Oui, ben, je pense qu'on ne s'entendra pas fondamentalement sur cette question-là, parce qu'au cœur du problème, c'est la conception qu'on peut avoir de l'économie et de son rôle. Si on voit l'économie comme devant nous amener à avoir des améliorations en termes très macroéconomiques et que dans le fond, la répartition de la richesse et le salaire que les gens vont avoir et leur possibilité de se rééjecter, de participer à l'économie de cette façon-là, ben, en fait, nous, on tend à avoir une vision peut-être plus dans le mouvement syndical, par exemple, un peu plus globale de l'économie et considérer que les revenus des gens participent à la croissance de l'économie aussi d'une autre façon. Je pense qu'on a un peu toutes la même question. Quand vous avez parlé du bien-être, vous avez parlé de variété des produits. C'est sûr que dans notre époque de surconsommation, ça joue un rôle important. Mais moi, j'inviterais vraiment, en fait, j'aimerais beaucoup que notre gouvernement ait une vision un peu plus globale de ce qu'on entend par l'économie. Et qu'ensuite, on voit aussi les accords de libre-échange comme étant pas quelque chose de complètement isolé par rapport aux autres politiques publiques, parce que je pense que ça fait partie d'un ensemble cohérent. Et ce que nous avons vu, ce que nous on a constaté, c'est que suite à l'ALENA, il y a eu des ajustements au niveau d'un certain nombre de politiques qui ont participé d'une même idée, c'est-à-dire aplanir les obstacles au commerce. Et c'est sûr que les gens qui s'organisent, qui vont essayer d'accroître leur marge de, disons, de gain de plus-value, constituent des obstacles au commerce.
Alors, je vais prendre une deuxième question. Essayez peut-être de limiter, pas de limiter, mais en tout cas de faire savoir plus bref.
Oui, mon nom est Luc Pelletier. Je suis étudiant à l'UQAM en sciences politiques. J'aimerais vous poser une question sur les tarifs. Des barrières non tarifaires. Dans les ouvrages de Stiglitz sur la mondialisation des marchés, il en fait référence. Donc, j'aimerais savoir si vous prenez en compte les impacts de certaines politiques publiques qui visent, disons, de façon cachée ou directe, de limiter la libéralisation des échanges commerciaux. Si vraiment vous pouvez mesurer l'impact de ça.
La façon dont on le fait, ça c'est une réponse, c'est de nature un peu plus technique si vous voulez, mais on a une mesure des barrières non tarifaires. L'OCDE produit un indice de restrictivité au niveau du commerce essentiellement, qui nous donne une idée des barrières non tarifaires. Okay? Mais ces barrières non tarifaires-là sont plus de nature qualitative, très difficile à quantifier. Donc, souvent, ce qu'on fait dans le cadre de la négociation d'un accord de libre-échange, j'ai toujours dit que c'est un acte de foi, jusqu'à un certain point, hein, dans le sens où, quand on dit on va baisser les barrières non tarifaires dans le secteur du service, en facilitant la reconnaissance des accréditations, en ayant des définitions de tâches relativement similaires, etc., etc., c'est très difficile à mesurer, puis c'est très difficile. C'est des politiques domestiques, donc on n'a pas de recours par la suite pour forcer l'autre partie à le faire. Et donc, c'est dans ce sens-là que tu dis que c'est un acte de foi. Tu dois faire confiance à ton partenaire de, effectivement, réaliser les engagements auxquels qu'il a pris dans le cadre de l'accord de libre-échange. Donc, les barrières tarifaires, bon, on s'entend, c'est facile à régler. Les barrières non tarifaires, c'est très difficile à régler. Et je pense que tous les efforts qu'on a faits avec les États-Unis et avec le Mexique au niveau de la coopération réglementaire, OK, où les résultats sont relativement restreints, relativement modestes, démontrent la difficulté d'éliminer les barrières non tarifaires.
Carl Grenier, un homme qui a résolument les pieds plantés dans le siècle dernier. Quand j'étais votre ministère, au début de la négociation du Code Europe, votre bureau n'existait pas. Et je pense qu'il n'existait pas non plus, en fait, au moment de la négociation des accords de libre-échange. J'étais absolument impressionné par le détail de votre présentation. Est-ce que ça rend les choses plus difficiles ou plus faciles pour convaincre les élus de partir une négociation comme ça, cette plus grande granularité? Et deuxième question, vous avez fait allusion très brièvement à la fin, l'effet d'épaississement de la frontière après les événements de tout ça. Est-ce que vous êtes capable de mesurer cet effet-là par rapport au bienfait de la libéralisation des échanges des deux accords?
Bien, l'épaississement de la frontière, comme on dit, Il y a plusieurs études, en commençant par McCollum, etc., qui ont mesuré ça. Et nous, effectivement, on a fait une série de quatre papiers qui ne sont pas disponibles, malheureusement, sur Internet en raison des restrictions budgétaires et de défense, etc. Et où on regardait l'effet des mesures de sécurité qui ont suivi septembre, le 11 septembre, sur les flux commerciaux, mais non seulement sur les flux commerciaux en matière de marchandises. Là, on s'attend. Bon, ça n'a pas affecté le commerce du pétrole et des produits agricoles. Les grands trains et les pipelines, ben, ce n'est pas tellement affecté par les mesures de sécurité. Ça a affecté énormément le commerce et les services. Okay. Et certains autres types, ça a affecté beaucoup des investissements. Okay. Parce qu'il faut essentiellement, si on est investi, il faut être capable d'aller sur place, etc. Et les délais à la frontière et les mesures de sécurité font en sorte que ça... Ça a rendu beaucoup moins intéressant le commerce des services et l'investissement. Donc, on avait, si on veut, donc les frais frontières ont été de plus en plus importants dans les années qui ont suivi, OK, septembre, les événements de 2001, OK, mais on voit que l'effet frontière a diminué avec le temps, hein, par cause du problème de Nexus, FAS, ou toutes les mesures qu'on a utilisé, qu'on a mis en place de façon à accélérer le passage à la frontière. Donc, l'effet, il y a eu un effet marquant au début du siècle. Par la suite, il était estompé, mais cet effet-là n'était pas généralisé à l'ensemble des flux commerciaux. Ça s'est surtout affecté le commerce des services.
Et le briefing des élus?
Mais ça, c'est. Mais je dois admettre que dans le cadre actuel, c'est assez facile parce que le gouvernement en place, effectivement, là, un penchant pour la politique commerciale et la signature d'accords de libre-échange. Donc, on n'a pas trop de difficultés. Mais essentiellement, oui, c'est le degré de régularité est plus élevé et des enjeux et des données et des méthodes d'analyse font en sorte que l'analyse est complexe. Et donc, des fois, il faut simplifier ça à outrance, de façon à convaincre des non-initiés, si vous me permettez. Là. Parce que le gouvernement actuel fonctionne beaucoup en termes de communication. Et donc, on aime à démontrer, bon, j'imagine une partie de cette étude-là va être utilisée au courant de l'année pour démontrer les bienfaits, les bénéfices économiques associés aux différents accords de libre-échange. On a fait d'autres depuis. Avec le Chili, là, ça va bien. Avec le Mexique, c'est un pays quand même assez important. Les États-Unis, un pays très important. Donc, l'impact est visible à l'œil nu, si on veut. Okay? Mais quand tu signes un accord de libre-échange avec le Chili, c'est moins de 1% de ton commerce international. Puis là, il faut que tu cherches ton temps. Hein? Ça prend une bonne loupe pour les trouver. Puis, effectivement, on a une étude qui est sur le site Internet là, de l'économie, où, effectivement, on a été capable d'aller chercher, de noter des impacts qui sont significatifs, qui sont importants. Et donc, on n'a pas de difficulté à les convaincre, on n'a pas de difficulté à leur faire comprendre le principe de la chose, mais on ne rentre pas trop dans les détails.
Bonjour, M. Dante. Richard Ouellet, je suis prof de droit économique à l'Université Laval. Mm-hmm. Une question pointue puis un commentaire rapide. Ma question pointue, je voudrais être sûr de bien comprendre un des graphiques que vous avez présenté. Si j'ai bien compris, les produits qui n'étaient pas soumis à des droits de douane, oui. Leur commerce, les échanges entre le Canada et les États-Unis a chuté, oui, malgré l'entrée en vigueur de la LIB et de l'ALENA, oui, tandis que ça a été le contraire pour les produits qui étaient soumis à des droits de douane. Oui. Je veux bien comprendre l'impact de ça. Est-ce à dire qu'on est à peu près maintenant dans une zone où il y a 99% des produits qui circulent sans droits de douane? Entre le Canada et les États-Unis, oui. Bon, il reste trois coûts tarifaires en matière agricole et deux, trois autres machins. Est-ce que ça veut dire que pour ces produits-là, il faut penser qu'il faut trouver des nouveaux marchés parce que la chute va continuer, parce que ce sont maintenant des non-mutable goods?
Oui, on a déjà trouvé des nouveaux marchés pour ces produits-là. On parle surtout de ressources. Mm. Donc, on a déjà essentiellement deux et demi marchés outre-mer au niveau de l'export. La majorité de nos ressources.
Mon commentaire pointu, c'est que les études économiques, c'est vrai du bureau de l'économiste en chef, mais c'est vrai, je pense, de l'ensemble du ministère, puis c'est vrai aussi de l'ALENA, du secrétariat de l'ALENA. Mm-hmm. Je trouve que depuis quelques années, il y a de moins en moins d'études versées sur les sites.
En fait, de moins en moins.
Oui,
il y a 25 ans, donc les effets ont été complètement assimilés.
Mais en tout cas, il me semble que il y a un certain nombre d'années, c'était plus riche que ça. Et puis il y a des études, je pense, que vous avez, que vous ne publiez pas, vous en avez évoqué un peu tantôt. Ça existait moins, il me semble, il y a quelques années. Puis les chercheurs, on avait pas mal plus de données, il me semble, c'était plus facile pour nous autres d'ouvrir l'ordinateur, d'embarquer sur Internet, sur vos sites. Et les données étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus accessibles que ces années-ci. Et moi, comme chercheur, je ne sais pas si je parle à un gars qui peut relayer le message, là, mais pour nous autres, c'est une grosse perte. Une grosse, grosse perte. Et c'est dans les années récentes. Avant ça, c'était plus riche que ça, pas mal.
Mais il n'y a aucun doute que les restrictions budgétaires des dernières années nous ont affecté, nous, comme ministère, ont affecté Statistique Canada comme distributeur de données. Effectivement, c'est un problème au fait long face. Par contre, il y a d'autres sources de données qu'on peut utiliser. Les Américains ont des banques de données très riches, les institutions internationales souvent ont des banques de données très riches. Donc, il y a des substituts. Mais il n'y a aucun doute qu'effectivement, comme chez nous, on a toujours publié ce qu'on appelle l'état du commerce international. À chaque année, c'est un document de 125 pages en anglais, en français, où on analyse l'économie mondiale, le commerce canadien, le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, etc., de façon très détaillée. Ça a toujours été publié, ça a toujours été imprimé. L'année passée, on ne l'a pas imprimé. Puis, au lieu de sortir au mois de juin, on a l'habitude qu'il est sorti vers la fin de l'année. Cette année, on envisage un modèle qui va être beaucoup plus restreint, peut-être une quarantaine de pages, où on va regarder le commerce des biens, le commerce des services, puis possiblement l'investissement. Puis, ça ne sera pas disponible de façon, de façon imprimée, ça va être uniquement disponible sur le site Internet. Mais ça, pas de méchante chose en soi, faut vivre avec son temps et avec les technologies qui existent. Hein. Mais je suis d'accord avec vous qu'on a accès à moins d'informations.
Merci, André. Donc, on va continuer maintenant.